Radio. Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
Le gouvernement fédéral reconnaît très bien que le Québec a eu beaucoup sur ses épaules dans les derniers 9 mois avec la majorité des migrants irréguliers qui sont venus au Québec.
J'apprécie les mots du ministre Garneau. On sent que le ton change et qu'il y a une réelle volonté de travailler avec le Québec pour trouver des solutions concrètes.
Les chefs Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Alors, le premier que vous entendiez, c'était Marc Garneau, le ministre fédéral des Transports, donc qui disait, écoutez, c'est vrai, là, le Québec en a pris large dans tout le dossier des migrants, puis nous, à Ottawa, on le reconnaît, puis c'est ça qui a changé l'espèce d'état d'esprit de tout le monde. Et David Hertel qui marquait par la suite, le ministre québécois de l'immigration, qui marquait son appréciation pour le commentaire du ministre fédéral. Et ça, mon cher Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité, ça a beaucoup contribué à changer le climat entre Québec et Ottawa. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine.
C'est l'harmonie.
Ben, c'est l'harmonie retrouvée pour le moment.
Sauf au Parlement, je vais te dire, parce qu'à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition trouvaient que c'était pas assez.
Ah bon?
Ce que le Québec a obtenu, hein? Ben t'as déjà fait ça, toi, de l'opposition, oui. Bernard?
Oui.
Faut pas être content. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a des questions qui se posent.
Ben oui, c'est sûr.
Hein? Quand même, là.
Ben oui.
C'est comme Nathalie Roy a bien dit, c'est comme un comité qu'on met à l'intérieur d'un autre comité. On crée comme... c'est comme des poupées gigognes, les comités. Hein? C'est ça.
Veux-tu d'abord, Antoine, qu'on rappelle ce que Québec a obtenu hier lors de la réunion?
Peut-être ça serait vraiment très bien.
Ça serait très bien avant de commencer avec les réactions. Je me disais qu'on pourrait peut-être placer le tableau.
Vas-y. Bon, seigneur du tonnerre, le dominion domine.
Le comité dans le comité dont Antoine parle, c'est effectivement un groupe de travail formé à l'intérieur du groupe de travail qui existe déjà pour analyser la facture de 146 millions de dollars que Québec réclame à Ottawa pour le surplus de travail qu'il a eu en accueillant la majorité des demandeurs d'asile l'été dernier. Donc, grosso modo, on dit à Ottawa, envoyez-nous la ventilation, on va regarder ce qu'il y a dedans. Puis à Québec, on est en train de préparer la facture détaillée. Ça ressemble
c'est
à
des,
ça. Puis
c'est ensuite, des hauts fonctionnaires.
On va se parler. On va mettre en place un système de triage, dit-on, plus efficace à la frontière pour envoyer les demandeurs d'asile tout de suite en Ontario ou dans une autre province s'ils le souhaitent, sans passer par Montréal. Parce qu'actuellement, on prend leurs demandes puis on les envoie dans les centres d'hébergement à Montréal. Puis ensuite, s'ils veulent être transférés ailleurs, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, ça se fait. Mais là, on voudrait que ça se fasse dès la frontière pour que ça soulage un peu les ressources à Montréal. Merci de le dire comme ça, effectivement. Évidemment, si leur état de santé le permet, là, parce que s'ils ont besoin de soins, c'est un peu plus compliqué. On va tenter d'envoyer des demandeurs d'asile hors de Montréal, ailleurs au Québec, pour ceux qui le veulent, en région. Moi, je leur souhaite bonne chance, parce que ça fait des années qu'on dit ça, qu'on aimerait bien que l'immigration s'installe hors de Montréal, mais
la régionalisation de l'immigration, c'est difficile.
C'est
mais ce matin,
difficile.
J'écoutais ça, puis je me disais, la régionalisation des demandeurs d'asile, c'est peut-être plus facile parce que ils sont vraiment mal pris. Ils sont moins dans un choix de vie absolu que en détresse d'une certaine façon.
Peut-être. Encore faut-il qu'ils aient un permis de travail.
Oui, c'est ça. Et là, on a demandé.
C'est une autre promesse.
Oui. C'est ça. Québec a demandé à Ottawa de continuer à délivrer plus rapidement ces permis-là. On dit à Ottawa que c'est déjà plus rapide que ça l'était. Mm-hmm. Et on demande surtout, et ça, Ottawa s'est engagé à le faire. Là, on a annoncé la somme de 74 millions. Est-ce que ce sera suffisant? On verra. Mais s'est engagé à surtout traiter les demandes des arrivants plus rapidement. Parce que là, en janvier 2017, donc pas en janvier ici, là, il y a déjà un peu plus d'un an, on avait un retard accumulé de 18 000 dossiers.
C'est ça.
On est actuellement à plus de 50 000. Ça ne s'améliore pas, là. Donc, quelqu'un qui a fait une demande de statut de réfugié actuellement peut attendre 2 ans ou plus, là. Donc, évidemment, on veut accélérer ça. Est-ce que le 74 millions de mesures d'efficacité d'embauche va être suffisant? On va essayer de diminuer, du moins, les retards qu'on a actuellement.
Il faut embaucher des juges.
Des commissaires.
Des commissaires.
Ben oui. Commissaires,
oui. Ça prend du temps.
Il faut les former.
Il faut les former. Ça prend du temps. Ça prend les ressources.
C'est un droit en soi, le droit de l'immigration et des réfugiés.
Bien sûr, c'est un droit en soi.
Est-ce que c'est toujours des juristes qui deviennent commissaires?
Non, pas nécessairement, mais il faut quand même qu'il sache un peu quels critères appliquer puis être capable d'évaluer un dossier à sa face même. Ça prend un peu de formation quand même.
Je connaissais quelqu'un qui était journaliste et finalement, il s'est retrouvé commissaire.
Non, c'est ça, effectivement. Ouais. Mais
qui était juriste à la base.
Ah, aussi. C'est vrai ça. C'est vrai qu'elle avait un diplôme en droit.
Mais oui. Non, ce n'est,
mais c'est pas nécessaire.
C'est pas
hein?
nécessaire. Non, ce n'est non. pas nécessaire. Donc voilà ce qui est sorti grosso modo de la rencontre hier vers 21h à Ottawa. Donc Antoine, de retour à toi pour les réactions.
Ben écoute,
je me sens comme un commentateur de hockey.
Ben c'est ça.
Antoine
c'est,
sur la passerelle.
C'est Lionel qui vient d'envoyer Lionel vient d'envoyer la poque à René Lecavalier. Vas-y Antoine.
Mais les oppositions, comprends-tu, ont donné leur 110%
ce matin. Ah oui, ils travaillent fort dans le coin matin.
On peut. Ben d'abord le gouvernement. Tu sais, allons-y dans l'ordre. Je vais continuer dans ton esprit. Mm-hmm. Alec, d'abord le gouvernement, M. Hertel était content. On peut l'écouter.
J'apprécie les mots du ministre Garneau. Déjà, on sent que le ton change et qu'il y a une réelle volonté de travailler avec le Québec pour trouver des solutions concrètes. Mm-hmm.
Mais Véronique Yvon, elle, estime qu'il faudrait que ça ne change rien, ce qui se passe, ce qui s'est décidé hier. C'est un exercice de diplomatie fédéraliste canadienne. Pour ce qui est des résultats concrets, il n'y en aura pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il faudrait, selon elle, abolir le fameux traité sur le pays sûr. Exactement.
Pays sûr. Ouais.
On peut écouter, il y a eu un échange entre Mme Yvon et M. Hertel là-dessus ce matin.
Et nous, on a une solution durable, intéressante et responsable à proposer. Et le ministre la connaît très bien et on dépose une motion aujourd'hui. C'est celle de suspendre l'entente bilatérale Canada-États-Unis pour faire en sorte que les migrants passent par les postes frontaliers réguliers. Est-ce qu'il est ouvert à cette solution? Est-ce qu'il en a discuté hier?
La gestion des frontières, les ententes internationales, que ce soit sur les migrants ou tout autre secteur, c'est de responsabilité entièrement fédérale. Est-ce que le Parti québécois peut reconnaître cela? On comprend que le Parti québécois veut tenter de semer à nouveau une chicane.
Oui, Antoine, l'entente sur les tiers pays sûrs, oui. Là, c'est ce qui fait en sorte, c'est une entente entre les États-Unis et le Canada qui fait en sorte que dès que tu arrives, quand tu demandes l'asile, si tu l'as demandé aux États-Unis et après ça, tu te présentes à un poste frontière canadien, ils vont te refouler. Ils vont dire non, vous l'avez d'abord demandé aux États-Unis, donc vous continuez avec votre processus aux États-Unis et inversement, même chose avec le Canada. La question que je me pose, moi, puis Alec, tu connais bien ce dossier-là, même si on suspendait l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et que les migrants, oui. les demandeurs d'asile se présentaient au poste frontière de l'ACOL comme tel,
régulier.
Là où sont les douaniers pour oui. demander l'asile, ça ne les empêcherait pas d'arriver par le chemin Roxham quand même?
Non,
et on serait obligé de les laisser rentrer pareil en vertu des conventions ces réfugiés?
Absolument. Ce que ça permettrait d'abord, c'est d'avoir peut-être un système un peu plus organisé parce que tu passerais par des postes frontières plus... régulier, là. Et aussi, ce que ça permettrait, et ça, c'est les organismes de défense des demandeurs d'asile qui le réclament, c'est que ça permettrait de répartir plus équitablement le nombre de demandeurs parce que il y en a beaucoup qui, auparavant, lorsque cette entente-là n'était pas en vigueur, arrivaient par les postes frontaliers en Ontario. Directement, plutôt que de passer par ici.
Ah.
Or, la géographie fait en sorte que l'Ontario, à cause des Grands Lacs, t'as pas beaucoup d'endroits pour passer.
Ils
sauf
pas de chemin Roxham,
sauf par des postes, exactement, des postes frontaliers. Alors qu'avant, par
Buffalo. Ils ont un mur d'eau.
Voilà. Alors, par Buffalo ou ailleurs, il y avait beaucoup de demandes qui venaient par là. C'était pas tout par le Québec. Mais comme ils ne peuvent pas se présenter à un poste régulier, ils passent par le bois. Puis le bois le plus connu, c'est le chemin Roxham.
Alors,
c'est
toi,
Québec.
Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de la mettre en suspens?
Sur papier, l'idée, elle est bonne parce que ça répartirait davantage les migrants. On aurait des ressources plus faciles à contrôler parce que là, t'as un vrai poste frontalier avec des infrastructures, des installations sanitaires. Le problème, c'est que c'est l'équivalent d'un missile diplomatique que tu suspends cette entente-là parce que là, tu dis aux États-Unis, on vous considère plus comme un pays sûr en matière d'immigration et de réfugiés. Puis quand tu as des relations, ma foi, un peu tendues avec Donald Trump, hein, l'ALENA, toutes sortes de dossiers.
Oui, mais Alex, si on leur explique qu'à cause de cette entente-là, actuellement, il y a un processus de migration irrégulière
exact.
Massif qui s'est déroulé l'année
qui
passée
cause des problèmes.
Qui va se répéter vraisemblablement cette année, il y aurait peut-être moyen de qu'ils comprennent.
Je suis d'accord. Il faudrait plaider la cause. Pour l'instant, à Ottawa, on n'est pas intéressé. On n'a pas le goût de mener cette bataille-là.
C'est un gouvernement libéral qui l'avait signé, d'ailleurs. Je me souviens, c'est Denis Coderre qui se faisait une fierté d'avoir signé ça.
Exactement. C'est au début des années 2000, là, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait quand même un petit moment que c'est en vigueur. Mais l'idée, elle n'est pas mauvaise. Elle est, pour l'instant, difficile à appliquer aux yeux d'Ottawa parce qu'on ne veut pas embarquer dans cette discussion-là.
OK, mais ça, je trouve ta réflexion intéressante. Donc, tu ne la discartes pas. Ça peut faire partie du débat public, puis ça pourrait même être une bonne idée.
Ça pourrait être, en tout cas, okay. les organismes qui, eux, gèrent l'accueil des demandeurs d'asile pensent que l'idée, elle serait bonne.
Mais il y en a d'autres qui pensent que ce ne serait pas une bonne idée. Il y a des avocats, notamment en droit de l'immigration, qui disaient qu'il ne faut pas retourner en arrière.
Ça dépend lesquels.
Hein?
Ouais. Ouais. OK. Retourne à tes... je pense
oui, c'est Nathalie Roy. Nathalie Roy de la Coalition Avenir Québec, elle qui a dit que par accès à l'information, ils ont pu savoir qu'on a baissé de 35 % les effectifs des gens qui s'occupaient de ces dossiers-là au ministère de l'immigration. Donc, sa question portait là-dessus, mais c'est pas mal fait rembarrer par David Hurtel. On peut écouter cet échange.
Sa solution, réduire le nombre de ses employés chargés justement d'accélérer le traitement de ses demandes. Pourquoi, M. le ministre, avez-vous fait ça?
La question de la CAQ révèle une ignorance complète et totale de comment fonctionne le traitement des demandes d'asile au Canada et au Québec. C'est le gouvernement fédéral qui traite les demandes d'asile. C'est pas du tout le gouvernement du Québec.
Le ministre de l'Immigration a participé hier soir, et je dis bien a participé hier soir, à sa première rencontre avec le groupe de travail fédéral-provincial.
Bon, bien, zéro en trois questions, trois erreurs factuelles massives, M. le Président. J'ai assisté personnellement à Ottawa à la rencontre du comité ad hoc sur les demandeurs d'asile le 23 novembre dernier. J'étais à Ottawa et j'ai assisté via téléphone à la rencontre de janvier. Alors, c'est complètement faux.
Oui, ça, tu peux pas te permettre de faire des erreurs factuelles comme celle-là quand tu poses une question en chambre. Antoine?
Oui?
Tu as un dernier extrait à nous présenter?
Non.
Non, c'était
pas tellement,
l'échange.
Je suis prêt à parler du fait qu'il n'y a pas de libre-échange absolu pour ce qui est des provinces.
OK, on change de sujet.
Oui, c'est ça.
On ne parle pas de libre-échange de demandeurs de statut de réfugié ici.
Non, c'est ça.
Oui. Alors, vas-y.
Alors, c'est ça, jugement de la Cour suprême important ce matin, qui, dans l'affaire de ce néo-brunswickois, qui est allé acheter énormément d'alcool au Québec, hein, plusieurs caisses de 24, et finalement, à qui on avait reproché ça, il avait même donné une amende, parce qu'il ne pouvait pas rapporter autant d'alcool que ça, selon les règlements interprovinciaux.
Parce que c'était considéré comme du commerce, commerce interprovincial, compte tenu de la quantité de caisses de 24.
Exactement.
Beau party. C'est le gars, mais là, un beau party.
La Cour suprême a tranché que les provinces ont le droit de restreindre le transport de l'alcool d'une province à l'autre, même si c'est contraire, évidemment, au libre-échange à l'intérieur du Dominion. Dominion, c'est mon mot, là.
Oui. Donc, que la Cour suprême ne l'a pas utilisé, non?
c'est quoi ma règle là-dessus? Tant qu'on utilise province, on peut utiliser Dominion.
Antoine, qu'est-ce qui va arriver quand on va légaliser le pot?
Ouais.
Est-ce qu'on va pouvoir traverser avec une grosse quantité de cannabis d'une province à l'autre?
Ben justement pas. Ça va protéger cet aspect-là. Il va y avoir une société québécoise du cannabis. Et qui comme le monopole de la SAC va être protégé par ces règles-là qui sont maintenant confirmées par la Cour suprême du Canada.
OK.
C'est une victoire pour les provinces. Ils sont contentes, les provinces.
Ben oui.
Ben oui, ils sont contentes de pouvoir continuer à réguler comme ils le veulent.
Comprends-tu le sens de ce jugement-là, toi? Moi, je suis un petit peu surpris, Alain.
Aussi, je pensais qu'il allait...
Ouais. Moi, j'étais sûr qu'il ne passait pas.
Exactement comme toi.
Je me disais, à l'ère du libre-échange, je me disais...
Je pensais que la Cour suprême allait mettre ça à terre, ces barrières-là.
Franchement, comme on dit en bon latin, c'est un no-brainer. Je pensais.
Ça m'étonne, moi aussi. Mais les provinces doivent être contentes parce qu'ils ont toujours plaidé qu'ils pouvaient réguler jusqu'à un certain point les quantités puis les substances qui transitent d'un territoire à l'autre, évidemment, parce que ça permet de faire de l'argent aussi.
Il y a des extraits intéressants dans le jugement qui donnent raison de Nouveau-Brunswick. Certes, les lois sur l'alcool ont pour effet d'entraver le commerce interprovincial, mais ce n'est qu'un effet accessoire. Hein? C'est un effet accessoire. Donc, ce n'est pas un effet direct. Ces lois visent plutôt à permettre la supervision par des entités publiques de la production, de la circulation et de la vente et de l'utilisation de l'alcool.
J'aurais aimé ça être un petit oiseau pour assister aux délibérations, moi, de la Cour suprême sur cette question.
Mais c'est un jugement unanime, hein?
Je le sais. Je suis très étonné, moi. Très étonné. Mm-hmm. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Hein? Les voix de la Cour suprême sont impénétrables.
Mm. Les délibérations aussi.
Oui, c'est ça.
On ne sait pas ce qui se discute.
Je pense que, écoutez, si on peut faire un peu de poésie là-dessus, une fédération... C'est concilier l'unité dans la diversité. Bon. Et des fois, on y va dans le sens de la diversité et d'autres, très souvent, on va dans le sens de l'unité.
C'est drôle,
ici,
hein?
Au Canada.
C'est drôle parce que c'est très drôle parce que j'avais l'image, juste au moment où tu as commencé à parler de poésie, je me disais, Est-ce qu'ils ont rendu cette décision-là parce qu'il y en a une autre qui s'en vient qui ira peut-être pas dans le sens de la diversité, mais davantage dans le sens de l'unité? Je réfléchissais là, pendant que...
Ça?
Ben, je sais pas.
Précise.
Tes paroles, tes paroles me berçaient l'esprit.
Oui.
Et je sais pas.
Puis j'ai un autre sujet constitutionnel qui s'en vient.
Oh, ça te fait plaisir. Hein?
Ben oui, mais je sais que tu as des chiffres, mon Alec.
Oh oui. Boy. Arrêtez de vous exciter.
Alors,
vous
après la pause, Alec a des chiffres.
Moi,
j'ai de la constitution.
Antoine ça a décidé être... qu'on s'en allait à la pause.
Extrêmement érotisant.
OK, mettons le son du crapaud. Là, je pense qu'il mérite. Tiens, mon crapaud. On s'en va à la pause à cette heure.
Ah, mais j'avais raison.
De retour avec Alec et Antoine. Antoine, alors parle-nous-en de ton fameux sujet constitutionnel sur, dans le fond, c'est la demande du barreau, des deux barreaux, hein, du Québec et de Montréal.
Et de Montréal, oui.
Oui, pour qu'on légifère dans les deux langues.
Oui, et tout de suite dans les deux langues. Évidemment, il y a déjà des versions anglaises des lois, mais souvent... Les anglophones se plaignent de la mauvaise qualité des versions anglaises. Or, les deux sont officielles. Donc, d'accord. Devant les tribunaux, on peut plaider à partir des deux. Et parfois, les lois ne disent pas les mêmes choses en anglais ou en français. Donc, c'est la même loi, mais les deux versions. On prend souvent l'exemple du Code civil qui a été adopté en 1992, le nouveau Code civil du Québec. Et ça a pris, il paraît, 20 ans à le corriger alors qu'il y avait toutes sortes de distorsions. Et c'est possible de façon législative, là, pour de façon administrative, de modifier ces textes-là. Mais si on modifie la substance, là, il y a comme on heurte le principe que c'est les élus qui doivent adopter les lois. Donc, le barreau va devant les tribunaux, veut finalement faire annuler toutes les lois du Québec.
Non, ça, c'est ridicule.
C'est incroyable. C'est ridicule. Comme utiliser la bombe nucléaire. Ouais, pour. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que les barreaux réclament un problème à cette solution-là.
Une solution au problème.
J'ai-tu vraiment dit ça? Quel beau!
Larry, tu gardes ça, là, oui. Parce que, écoute, j'en reviens pas, là, je me disais, il s'amuse, puis là, je voyais, je t'entendais continuer. Non, il est sérieux.
Je te jure, j'ai fait un péronisme.
Ouais, tout à fait. Oui. Alors, mais je veux juste comprendre, Antoine, là.
Oui.
Je veux dire, le barreau, ils sont pas fous à temps plein, voyons donc, ils savent bien que ça a pas d'allure de déclarer inconstitutionnel ou illégal les lois votées, puis on fait tabula rasa du corps législatif.
C'est fou!
Puis on va revoter. Non, ils savent bien que ça arrive. Pas.
C'est ça. C'est pour mettre de la pression. Ça fait des années. Dans leur requête que j'ai lue hier soir, justement, là, il y a toute une série de gestes qu'ils ont posés, des comités, et ils trouvent que ça avance pas assez vite, que finalement, au Québec, à l'Assemblée nationale, on n'adopte pas les mesures voulues. Donc, ils ont décidé de passer à l'action. Mais ça amènerait quand même des changements dans la manière dont les travaux législatifs se feraient à Québec. Il faudrait légiférer tout de suite dans les deux langues et que...
Je vais te dire, moi, j'en ai fait de l'étude article par article.
T'imagines?
Là. Faire l'étude article par article, les citoyens, là, les auditeurs, là, c'est, tu prends le projet de loi, là, puis il est écrit, là, tout est là. Tous les mots sont là, tous les virgules, tous les points virgules. Et souvent, là, permettez-moi l'expression, tu vas gosser pendant des heures de temps sur un bout de phrase parce que tu t'entends pas avec le ministre. Là, je parle comme ancien député d'opposition. S'il fallait faire la même affaire avec le texte anglais en même temps, Antoine, écoute, d'abord, ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis deuxièmement,
c'est pas tout le monde qui est compétent aussi.
Mais j'allais dire, il y a beaucoup
anglais,
Ben non.
En tout cas, il paraît que ça fonctionne comme ça en Ontario. Dans la requête, là, le barreau dit on devrait s'inspirer de l'Ontario. Il y a comme une co-rédaction et un Nouveau-Brunswick aussi. Les bras m'en tombent. On peut écouter Véronique Yvon, qui est vice-chef de l'opposition, qui a dénoncé la situation ce matin, depuis quelques jours d'ailleurs, mais ce matin, entre autres, en point de presse.
Évidemment, on a déploré fortement cette décision, ce recours, parce qu'il remet en cause carrément les droits des parlementaires québécois, droits reconnus constitutionnellement d'ailleurs, de pouvoir agir, travailler dans leur langue à eux et non pas de manière bilingue. C'est aussi une intrusion dans tout le processus de régie interne du pouvoir législatif. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, on a appris hier que c'était un programme de subvention fédérale. C'est un programme de Patrimoine Canada.
Oui.
C'est un vrai, promen- qui paye pour le recours. Ils ont obtenu en tout cas 125 000 $ de subvention.
Ah d'accord, on va voir, hein, parce qu'on peut présumer qu'ils vont finir par se retrouver devant un juge et puis, ou une juge, puis on verra bien ce que les tribunaux décideront. Il faut parler un petit peu du Parti conservateur, Alec, qui oui. entame une grande tournée au Québec, l'Opération Québec, l'opération, comment ils appellent ça, à l'écoute des Québécois.
C'est ça, moi je l'ai baptisé l'Opération Québec, on est à 18 mois des élections, puis dans une demi-heure, annonce à Montréal du chef conservateur, Andrew Scheer, et de son lieutenant au Québec, Alain Reyes. Mm-hmm. On commence une tournée, donc, parce qu'on veut, dit-on, bonifier la reconnaissance de la nation québécoise, qui a été adoptée en 2006 à la Chambre des communes. Et donc, on veut savoir comment les Québécois voudraient qu'on bonifie cette reconnaissance-là. Et donc, il y a plusieurs idées qui vont être soumises, évidemment, dans cette tournée-là. Mais aussi, il va y avoir un site web qui va être créé. Les gens vont pouvoir écrire directement au parti pour suggérer des idées. Parmi les pistes qui sont explorées, donner plus de pouvoir au Québec en matière de culture, avoir une déclaration d'impôt unique administrée par le Québec, un peu comme le NPD l'a voté à son dernier congrès, d'ailleurs.
Exact, exact.
La cession des ponts fédéraux à Montréal, comme le pont Champlain, le pont Jacques-Cartier qui appartient à Ottawa, céder ça au Québec. J'espère que les budgets d'entretien viennent, parce qu'ils viendraient avec, parce que ça coûte cher. Plus de pouvoir en immigration, possibilité notamment sur la réunification familiale. C'est une proposition de la CAQ, entre autres. Tournée qui commence, Andrew Scheer va être à Trois-Rivières demain, samedi au Saguenay.
Est-ce qu'il y a mention d'application de la loi 101 aux organismes fédéraux?
Non, pas pour l'instant, mais quelqu'un peut aller sur le site web et le recommander au parti.
Ben oui. Ben,
ça va être une possibilité. Et donc, c'est intéressant parce qu'on veut se rapprocher de ce que les Québécois pourraient vouloir. On me dit, moi, en coulisses, qu'on a consulté le Parti libéral du Québec et la Coalition Avenir Québec sur ces idées-là.
Et?
Que les échos sont favorables des deux côtés, mais on a l'impression que les libéraux provinciaux reviennent toujours à leur document sur la Constitution, le document de Jean-Marc Fournier. Puis le Parti conservateur, il dit, nous, on n'est pas intéressés à ouvrir le débat sur la Constitution.
Ah, oui,
donc,
c'est administratif.
D'ailleurs, voilà, c'est administratif. On peut changer des choses à l'intérieur de la Constitution actuelle. C'est la position des conservateurs.
Même le mot administratif apparaît dans leur document à un moment donné. Là, ils posent la question, est-ce qu'on pourrait pas changer ça de façon administrative?
Exactement. Et donc, c'est intéressant. Comme tu dis, il faudra voir ce que ça va donner. Mais là, il y a une volonté. On le sentait au NPD, hein, au dernier congrès. On le sent chez les conservateurs. On veut marquer des points au Québec. On sait que Trudeau est encore très populaire. Mais on sait aussi qu'il y a peut-être une frange de l'électorat qui est réceptif à ce message-là, notamment parce que le Bloc est en train de s'effondrer. Yeah. Donc, des électeurs plus nationalistes. On voudrait saisir la chance. Donc, c'est intéressant. Andrew
Scheer qui avait voté pour Mulroney en 84. Hein,
ah, ben, il y a un fond nationaliste très, très fort au Québec, tout parti confondu. Quand tu vas titiller cette fibre-là, Harper avait eu
Il y en avait un qui était bien connu, n'est-ce pas, Alec?
Ben oui.
Oui, bien
Comment,
sûr.
Juste Alec. Bernard aussi.
Mais
c'est péremptoire.
Le discours de Harper sur le fédéralisme d'ouverture qu'il avait prononcé à Québec lors de la campagne électorale 2005-2006 lui avait permis d'aller chercher une dizaine de sièges au Québec. Il était nulle part avant ce discours-là. Mm-hmm. Là, soudainement, les gens s'étaient mis à écouter. Donc,
c'était un discours, ça.
Ah oui, là, il y avait de la substance.
Ah oui. Ah, oui.
Alors, justement, à la page 10, selon vous, est-ce que ce serait souhaitable et pertinent d'encadrer le pouvoir fédéral de dépenser au Québec par une entente administrative?
Oui.
Voilà. C'est ça.
Toujours des ententes administratives, mais pourquoi pas? Alors, au moins, on va proposer quelque chose. J'ai hâte de voir les résultats de la tournée.
On proposait aussi un fédéralisme d'ouverture, une charte du fédéralisme d'ouverture.
Antoine, est-ce que tu veux avoir du temps pour Sonia Lapafine?
Oui, bien sûr. Sonia Lebel, on sait, l'ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau, qui a un chalet en Mauricie, va se présenter dans la circonscription de Champlain. Ça a été ébruité ce matin.
Et, pour la CAQ.
Évidemment. Parce qu'elle est directrice adjointe de cabinet du chef de la CAQ, François Legault, depuis février 2017. Or, ça a suscité un commentaire bien intéressant de la ministre Julie Boulay, qui elle-même avait été interrogée par la même Sonia Lebel lors de la commission Charbonneau.
Oui, elle avait...
Et elle trouve qu'elle n'a pas l'air fine, Sonia
Lebel. C'est
sûr. On peut écouter Julie Boulay sur Sonia Lebel.
Je suis étonnée. Le nom circulait, mais j'étais profondément convaincue qu'on n'irait pas avec cette candidature-là parce que c'est une candidature parachutée. Donc, quelqu'un qui n'est pas connu, presque pas connu ou pas connu en Mauricie. Ce que je dis aujourd'hui, là, j'ai aucun ressentiment, puis je pense que tout le monde le partage. Je pense que vous êtes, bien ça, vous me permettrez, j'ai assurément le droit de dire qu'elle n'a pas l'air sympathique. Alors, c'est mon opinion, mais ce que je dis, non, pas du tout. De toute façon, elle n'a pas l'air sympathique.
C'est sûr. Ça avait été un moment difficile pour la ministre devant la commission Charbonneau.
Ben oui.
On s'en souvient. Donc, ça se peut qu'elle la trouve pas fine.
Hey, juste, en parlant d'une pas fine, là, Il y a Carole Poirier aussi, du Parti québécois, qui est une poffine, a posé une question sur l'éducation à la sexualité, puis les problèmes que pose l'introduction d'un nouveau cours ou d'une formation dans nos écoles.
Oui.
Puis écoute ce qu'elle a dit, ce qu'elle a lancé comme vacherie aux libéraux.
Alors, on sait, l'éducation à une saine sexualité, c'est pas la matière la plus forte chez les libéraux. Alors, comment le ministre va-t-il réparer son gâchis afin que ce cours soit prêt tel que promis à la prochaine rentrée scolaire?
Évidemment, c'est un clin d'œil de mauvais goût. En tout cas, assez narquois, et c'est le mot du jour.
Aux histoires. Oui, à Yves Saint-Denis.
À Yves Saint-Denis, l'affaire Yves Saint-Denis.
Deux minutes pour Rudess.
Oui.
Ah oui, c'était un cross-check dans le coin, ça.
Ah, mon oncle, ça. Et non pour bâton élevé, mais oui. C'est un autre...
Je vous arrête.
Je quitte.
Oui, c'est ça. Arrêtez, les gars, là, parce que le marais des batraciens s'active trop, là. Ça patauge. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
À
Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire.
Au revoir.
Loïc Tassé, l'international, ce sera sans doute plus calme. Les eaux seront plus paisibles dans un instant.
98.5, circulation.